réfléchit assez peu à quoi tout ça va-t-il servir. Cette question, c'est donc comment on va utiliser cette énergie, mais surtout comment on peut réfléchir à maîtriser cette demande en énergie. Avec la sobriété, quel choix on peut faire? Et avec l'efficacité, c'est-à-dire en même usage, combien d'énergie on va consommer? Si je dois me déplacer, qui était un besoin, j'ai besoin de me déplacer. Si je marche, si je prends une trottinette électrique, un scooter thermique, une voiture électrique, une voiture thermique ou un Hummer, vous imaginez bien, je ne dépense pas la même quantité d'énergie pour répondre à ce même besoin qui est de me déplacer. Je suis donc allé voir Bernard Ronche, comme toujours, pour parler de tout ça. On va commencer par remettre un peu la perspective sur ces questions énergétiques. C'est parti, on t'écoute Bernard.
Bonjour mon cher Bernard.
Bonjour Mathieu.
Aujourd'hui, nous allons parler d'énergie et d'électricité en France. On lisait un 5 pages qui parlait du nucléaire dans Le Parisien et on s'est rendu compte que assez facilement dans le journal, on pouvait utiliser énergie et électricité comme étant deux synonymes et ça t'a fait soit bondir, soit rigoler, mais en tout cas ça t'a fait réagir. Et donc tu avais envie qu'on rentre un peu plus dans le détail sur énergie, électricité et qu'on parle un peu du mix énergétique en France et qu'on déconstruise un peu les idées qu'on peut avoir en France sur l'énergie et l'électricité. Déjà, tu avais commencé par me présenter un peu, je dirais, les grandes masses, les grands chiffres sur les questions énergétiques. Je t'écoute.
Oui, il faut revenir à des choses relativement simples. En France, ce que tu as dit, quand on parle d'énergie, la plupart des gens passent à l'électricité. Et quand on parle d'électricité, on parle de nucléaire. Et le nucléaire devient une espèce de sujet numéro un. Ce qui est important par le fait que le nucléaire est important en France et qui présente des risques considérables, mais qui masque le problème énergétique en général. Alors, si on regarde le schéma de l'énergie, le point de départ, c'est la consommation d'énergie d'un pays, c'est-à-dire des gens et des activités de ce pays. Et puis après, on regarde comment cette énergie consommée, c'est-à-dire l'essence consommée dans les transports, les différentes façons de se chauffer, c'est beaucoup ça, et les différentes façons de se transporter, les différentes façons de la production industrielle. Donc on a des activités qui sont soit des activités de production de biens, soit des activités de consommation pour la vie courante. Alors, c'est ce qu'on appelle la consommation d'énergie finale. Et il faut partir de ça. Et la consommation d'énergie finale, c'est ce que je disais, c'est-à-dire le chauffage, les appareils électroménagers, les transports, l'industrie, l'agriculture. Les différents secteurs d'activité consomment de l'énergie. Alors, comment est-ce qu'on mesure cette quantité d'énergie? Par simplification, on la ramène à ce qui était, qui reste l'énergie dominante, c'est-à-dire les produits pétroliers. Et on dit, chaque fois qu'il y a une consommation d'énergie, on va mesurer ça en tonnes équivalent pétrole. Bon. Et donc, on a, par exemple, on prend comme référence l'année 2012, une consommation de pétrole de 154 millions de tonnes équivalent pétrole, qui vont se répartir suivant les secteurs et suivant les formes d'énergie. Et on s'aperçoit là-dedans qu'il y a effectivement des produits pétroliers, du gaz, des énergies renouvelables qui peuvent être soit ce qu'on appelle thermique, c'est-à-dire la biomasse qui produit de la chaleur, ou la géothermie par exemple, ou bien de l'électricité d'origine renouvelable, éolien, photovoltaïque, majoritairement. Et dans cet ensemble de consommation d'énergie finale, on voit que la part de l'électricité, donc il y a des produits pétroliers, il y a les produits pétroliers ou fossiles, c'est-à-dire du gaz, du charbon et du pétrole, et des produits pétroliers, il y a quelques énergies renouvelables que j'ai citées, et puis il y a l'électricité. Et l'électricité en France, qui est d'ailleurs à un taux assez supérieur à ce qu'elle est dans beaucoup d'autres pays comparables, c'est 25%. Donc l'électricité assure 25% de la consommation d'énergie finale. En général, ce chiffre est ignoré, puisqu'on assimile l'électricité à l'énergie. Alors, ces 25% d'électricité, d'où proviennent-ils? C'est ce qu'on appelle le mix électrique. En France, majoritairement, cette électricité est produite par les réacteurs nucléaires, qui d'ailleurs produisent de la chaleur, mais après on transforme cette chaleur en électricité. Et donc on a dans la 25% de la consommation d'énergie finale, avec, disons, 70%, entre 60, ça dépend des années, hein, 65, mettons 70% de cette production qui est d'origine nucléaire. Bon. Donc, 25% multiplié par 70%, ça fait à peu près 17%. Donc, on peut dire la contribution du nucléaire à la consommation d'énergie finale, c'est entre 16 et 17%. Ce qui est très intéressant, c'est-à-dire quand on voit que les discussions portent essentiellement et très vite sur le nucléaire, eh bien, on se plante. C'est-à-dire que la dépendance, on parle toujours de la dépendance énergétique, ben la dépendance énergétique de la France, c'est essentiellement le pétrole et les produits pétroliers. Et puis le charbon, c'est très peu, en consommation d'énergie finale et même en production d'électricité. Le gaz est également important. Et donc, il faut regarder cet ensemble. Et par rapport à cet ensemble, on regarde quel est le facteur le plus important sur tous les impératifs, disons, de moindre dépendance énergétique, de lutte contre le changement climatique, d'amélioration du pouvoir d'achat des ménages, etc., etc. On s'aperçoit que le facteur le plus intéressant, c'est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, ou la combinaison entre l'efficacité énergétique et la sobriété énergétique, ou bien ce qu'on appelait de mon temps, si je puis dire, c'est-à-dire dans les années 70, on parlait d'économie d'énergie. Ce qui est facile à comprendre, c'est-à-dire pour un usage donné, d'abord, je suis pas obligé d'avoir 3 télévisions, 4 réfrigérateurs, 2 piscines chauffées, etc. Mais aussi, je peux avoir des réfrigérateurs performants, de l'éclairage avec des LED, de la box qui est éteinte la nuit, etc.
Attends, on rentrera dans les techniques de maîtrise de l'énergie après. Je voudrais qu'on reste un peu là sur ces gros chiffres là. Ce que je retiens de ce que tu viens de me dire là, c'est qu'effectivement le nucléaire contribue à 17% de la consommation finale d'énergie, que c'est le sujet numéro 1, alors que 17%, non, ça n'est pas le sujet numéro 1. Et tout à l'heure, quand on buvait notre café, tu me disais, en fait, il y a une loi qui est contraignante en France, et qui est une loi qui justement impose à l'État français de mettre tout en place pour que cette consommation d'énergie finale baisse. Et donc ça, là, moi, je voudrais qu'on revienne là-dessus.
Oui, alors justement, par rapport à cette consommation actuelle, on prend référence 2012 pour les raisons que je vais expliquer, la première action à faire, c'est effectivement les économies d'énergie, et il y a la loi sur l'énergie de 2015 qui dit, et ça n'a pas du tout été modifié par les gouvernements suivants, qui dit qu'il faut réduire la consommation d'énergie finale par rapport à l'année 2012 de 20% en 2030 et de 50% en 2050. Et ça, c'est, pour moi, c'est le premier facteur de la politique énergétique. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place des politiques d'économie d'énergie ou de sobriété, efficacité énergétique, d'économie d'énergie, pour réduire notre consommation sans toucher forcément aux usages. Tu sais, c'est important. À l'époque donc des années 70, on a parlé des économies d'énergie. Et d'ailleurs, le premier organisme public, et je crois que c'était une première mondiale, c'était la création en 1974 de l'Agence pour les économies d'énergie. et cette agence a été très active, puisqu'après elle a été renforcée avec la création de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie, et puis après c'est devenu l'ADEME, etc. Donc c'est une composante très importante dès les années 70. Et c'est assez curieux, parce qu'autant on parle, et c'est normal, du programme nucléaire qui a été lancé, ce qu'on appelle le programme Messmer, en 1974-75, mais on oublie la création de cette agence pour les économies d'énergie qui allait dans le bon sens, qui vraiment commençait avec des slogans comme « En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées », etc. Mais les idées, dans cette phrase, ce n'était pas le nucléaire, c'était les idées d'économie d'énergie. Et pour moi, c'est le plus important. Par rapport aux différents facteurs, le climat, la dépendance énergétique, le pouvoir d'achat des ménages, etc. Et si maintenant on vient à la question de l'électricité, là aussi, cette électricité, à quoi on la consacre? Alors tout de suite arrive l'idée, on a besoin de beaucoup d'électricité pour notre industrie. Alors l'industrie française est un peu décadente, mais quand même, il y a de l'industrie. On pense beaucoup aux transports. Les transports, les TGV, le métro, les trains, enfin, vraiment tous les transports collectifs, c'est très important. Et les autres secteurs consomment effectivement l'agriculture, l'habitat, le tertiaire, les bureaux, etc. Tout ça consomme de l'énergie, de l'électricité. Et comment ça se répartit? Et cette répartition, elle est très peu connue. D'ailleurs, l'industrie, 25% maximum. C'est plutôt, je pense, aujourd'hui 20%, mais mettons 25%. Les transports, et ça c'est la grande surprise, personne ne connaît ce chiffre, c'est 3%. Les TGV, les trains, les métros, c'est 3%. L'agriculture, 2%. Le reste, c'est-à-dire 70%, c'est l'ensemble de ce qui est consommé dans les secteurs résidentiels et tertiaires, dans les bâtiments.
Mais donc ça, c'est l'éclairage, hein, alors, et surtout, j'imagine, le chauffage des radiateurs électriques, même pas?
Non. C'est une partie, c'est les usages de production de chaleur, c'est à peu près 20%. Et 50%, c'est les usages, ce qu'on appelle les usages spécifiques, c'est-à-dire pour lesquels on n'utilise que de l'électricité, c'est-à-dire l'éclairage, l'électroménager, l'informatique, l'électronique, climatiseur, etc., etc. C'est-à-dire les appareils qui sont dans le secteur résidentiel et tertiaire. Et c'est ça le plus important. C'est presque la moitié de la consommation d'électricité en France. Et donc, avec le même raisonnement que j'ai appliqué tout à l'heure à l'énergie, il faut appliquer le même raisonnement aux économies d'électricité. Quelle que soit la façon de fabriquer cette électricité, que ce soit le nucléaire, que ce soit les renouvelables, etc., j'économise l'électricité. Et c'est faisable, parce qu'on peut avoir des réfrigérateurs performants, et sur tous les appareils électroménagers, tous les appareils électriques, existe le guide Top 10, que tout le monde peut consulter. Si je veux acheter un appareil, je vais avoir le guide Top 10 qui me dit, cet appareil, voilà ses performances énergétiques, voilà son coût, voilà sa qualité, etc. Et on peut imaginer des politiques d'aide à ces économies d'électricité. Ce n'est pas forcément des subventions, ça peut être des facilités d'achat. Enfin, on peut imaginer Or, on ne le fait pas.
Alors moi, je voudrais après, il va falloir... Moi, j'ai envie que tu me détailles qu'est-ce que c'est que ces politiques publiques qu'on peut mettre en place. Je voudrais encore qu'on creuse un peu cette question d'énergie finale et de mix global, parce que souvent, et encore hier soir dans une interview auquel j'ai participé, un des participants dit « Ah ben, on va pas pouvoir remplacer les centrales nucléaires par autant d'éoliennes. » Bon, ça, on l'entend tout le temps. Et justement, une des réponses, c'est ce que tu me racontais tout à l'heure, c'était... D'abord, personne ne dit ça. Personne ne veut remplacer tous les centrales nucléaires par des éoliennes. La question est toujours, quelle est l'énergie dont nous aurons besoin en 2030 et en 2050? et qu'une fois qu'on a compris qu'en 2050 on consommera, enfin en tout cas il faudra qu'on consomme deux fois moins, ce deux fois moins, on pourra le faire par les ENR. Explique-moi ce raisonnement pour que ça finisse quand même par rentrer dans la tête des gens. Quoi.
Bon, faire 154 millions de TEP avec des énergies renouvelables, bah, c'est forcément plus compliqué que de faire en 2050 74 millions de TEP avec des renouvelables.
Donc TEP, c'est tonne équivalent pétrole.
Tonne équivalent pétrole en énergie renouvelable. D'autant plus que pour les énergies renouvelables, on parle essentiellement actuellement de celles qui sont des concurrents très intéressants sur l'électricité, c'est-à-dire l'éolien et le photovoltaïque, du point de vue environnemental, sont effectivement beaucoup moins dangereux, beaucoup moins polluants que le nucléaire, mais puis qui, en plus, sont de moins en moins chers par rapport au nucléaire. Donc il y a un avantage à la fois du point de vue environnement, santé et économie. Mais il y a les autres, les énergies renouvelables non électriques, qui sont extrêmement intéressantes, et ça c'est très bien développé par le scénario négawatt en particulier, c'est-à-dire la biomasse, qui est un combustible que l'on peut soit consommer directement pour le chauffage, vers le bois, les déchets, etc. Soit on peut faire de la méthanisation, c'est-à-dire fabriquer du gaz à partir des déchets animaux et végétaux. Il y a la géothermie. Donc il y a toute une famille d'énergies renouvelables. Il y a le chauffe-eau solaire. Le chauffe-eau solaire qui, dans la plupart des pays méditerranéens, est très développé et qui en France est très peu développé, alors que dans les années 70 il y avait un développement important justement du chauffe-eau solaire. Donc pour la production de chaleur, c'est pas la peine de passer par des trucs très compliqués. Dans beaucoup de cas, le chauffe-eau solaire constitue un apport qui est très important. Je prends la ville de Marseille, qui est probablement une des villes les plus ensoleillées de France. Il n'y a pas de chauffe-eau solaire. Pourquoi il n'y a pas de chauffe-eau solaire? Ben parce que EDF bloque tout, a des accords avec les installateurs qui expliquent aux gens que chauffe-eau solaire, bon, c'est quand même, c'est pas terrible, et il faut mettre des chauffe-eau électriques. Alors que vous avez à Marseille toute une série de quartiers dans lesquels il y a des immeubles pas forcément très esthétiques, mais enfin qui ont des toits plats, et sur lesquels on pourrait mettre des chauffe-eau solaires partout. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que pour les usages qui ne sont pas électriques, on a énormément de possibilités d'avoir des distributions, par exemple les distributions de chaleur, les réseaux de chaleur qui existent dans un certain nombre de villes, dont Paris, qui a un réseau de chaleur très important, ben, ils peuvent être alimentés avec des déchets ou avec de la biomasse. Donc il y a énormément de possibilités des deux côtés, c'est-à-dire du côté de la consommation, que l'on peut réduire en satisfaisant les mêmes usages, mais de façon pas extravagante, et il y a le côté production. Et sur la consommation, pour revenir à l'électricité, l'une des façons de développer cette notion d'économie d'électricité, c'est de faire des tarifs d'électricité qui augmentent avec la consommation. Et ça, c'est très astucieux. C'est-à-dire, il y a une consommation minimale qui a un tarif réduit. Et plus on consomme, et bien plus on paye cher le kilowattheure. Ce qui va faire une pression quand même sur les prix. C'est-à-dire, même les gens riches pourront se dire, mon électricité me coûte deux fois plus parce que je gagne trois fois plus ou quatre fois plus ou cinq fois plus ou dix fois plus que le SMIC, ben quand même je peux réduire ma consommation d'électricité en faisant attention à tous mes appareils, et que ce soit du point de vue de l'usage ou que ce soit du point de vue de la politique d'achat. Et ça peut aller assez vite, parce que les gens, normalement, on change à peu près son réfrigérateur tous les 10 ans. Bon. Mais ça veut dire que chaque année, il y a un nombre considérable de gens qui achètent des réfrigérateurs. Soit qu'ils les renouvellent, soit qu'ils se montent en ménage et ils achètent un réfrigérateur. Si j'ai une pression à la fois sur les tarifs, disons, progressifs, les tarifs progressifs, Et si j'ai à la fois la possibilité d'acheter des équipements performants, eh ben, j'aurai une politique d'économie d'électricité qui peut aller vite. C'est-à-dire, elle peut commencer l'an prochain. Et tous les gens qui l'an prochain vont acheter des réfrigérateurs, on leur dira, écoutez, consultez Top 10 et regardez le type d'aide, par exemple, qu'on peut faire pour vous aider dans ces achats.
Et on pourrait imaginer que plutôt que de donner des chèques énergie aux ménages pour payer leur facture d'électricité, on leur donne un chèque s'ils achètent un frigo A++.
Par exemple, très bon exemple, parce qu'actuellement, qu'est-ce qui se passe? On va donner des chèques aux ménages pour payer leur électricité. Donc l'État va donner de l'argent pour que les gens puissent payer l'électricité. Et le fait que l'électricité soit plus chère, à qui ça rapporte? À EDF?
Eh oui, aux producteurs.
Ça rapporte à EDF, surtout à EDF. Et d'ailleurs, j'ai entendu un directeur d'EDF qui se réjouissait de l'augmentation des prix de l'électricité. Pourtant, ils sont prudents en général, mais lui, il s'est lâché en disant, vous comprenez, ça nous fait une rentrée d'argent considérable, ce qui nous permet de financer tous les travaux que nous faisons sur les centrales nucléaires. Donc c'est un piège assez astucieux, c'est-à-dire que l'État, pour des raisons en partie électoralistes, va donner de l'argent aux gens qui payent leur facture d'électricité, mais cet argent, en fait, va aller à EDF. Et donc, c'est une espèce d'aide d'État à l'EDF, mais qu'on ne peut pas accuser d'aide d'État, puisque c'est une démarche sociale populaire.
En plus, l'Europe ne peut même pas dire concurrence faussée.
Non, l'Europe dit il faut aider les gens pour la facture d'électricité, donc c'est formidable. Et c'est l'EDF qui en profite.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 et vous écoutez Le nucléaire et son monde.
On the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, mercy, mercy me. Things ain't what they used to be. Lots more radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby our lives. Mercy, mercy, me. Mercy, all things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Mercy, can't you stand?
quotidien sur Radio Libertaire 89.4 et vous écoutez Le nucléaire et son monde.
Sur quoi on bâtit le système électrique français, par exemple? C'est sur la pointe. C'est-à-dire que l'hiver, comme il y a beaucoup de chauffage électrique en France, l'hiver, tout d'un coup, tous les ans, on nous explique que ça va être très dur, peut-être, cette année, de passer le mois de janvier et février, parce que on a une pointe, c'est-à-dire l'augmentation de la consommation d'électricité, qui est considérable.
Alors attends, parce que là, je voudrais juste faire une petite parenthèse, parce que là, comme tu viens de le dire, on a l'impression que la hausse de l'électricité, elle est due au fait qu'il fait froid et qu'on allume les chauffages, mais en fait, la pointe, il y a une pointe tous les jours, enfin, il y en a même deux. C'est-à-dire qu'il y a une pointe le matin et une pointe le soir, parce qu'en fait, dans la journée, la demande en électricité n'est pas du tout constante.
Je parle de la pointe annuelle.
Toi, tu parles de la pointe annuelle, qui est donc la plus haute pointe des pointes.
La plus haute pointe des pointes, qui se situe à certains horaires, mais il faut passer. Il faut passer ce cap. Ce cap.
Le Mont Ventoux.
Ce pic. C'est un pic, c'est un cap.
C'est une péninsule.
Donc on a ce truc. Et la pointe française est la moitié de la pointe européenne. C'est colossal.
C'est-à-dire la France représente 50% de la pointe européenne, tout pays confondu, ajouté au même moment. C'est
l'Union européenne.
Donc on a la plus grosse pointe du monde.
C'est une chauffage électrique.
C'est une fierté dont on pourrait se passer.
Une fierté française. Ouais. Et donc à partir de là, on nous dit, vous voyez, il faut absolument, pour assurer de ne pas avoir des mesures pour éviter la pointe, qu'on pourrait d'ailleurs appliquer, mais donc il nous faut tout notre parc et toutes nos centrales nucléaires. Or les centrales nucléaires, elles marchent tout le long de l'année, donc le reste de l'année la demande est plus faible et donc on exporte de l'électricité, ce qui présente strictement aucun intérêt parce qu'on vend assez à bas prix. Et on garde pour nous le risque d'accident et les déchets.
Oui.
Et le démantèlement. Donc, de toute façon, ce n'est pas terrible.
Stratégiquement, ce n'est pas super.
Ce n'est pas super. Donc, on peut se dire, les premières actions qu'on va entreprendre, c'est la réduction de la pointe.
Oui.
Pour réduire la pointe, il y a deux choses. De réduire la question du chauffage électrique.
Oui.
Et c'est certain que dans ce cas-là, la rénovation énergétique des bâtiments joue. Mais c'est pas très rapide.
Ah ben non.
Bon, donc on peut voir que, mais il faut voir que dans la pointe, c'est sûr qu'il y a une partie qui est le chauffage électrique, mais il y a toutes les autres consommations qui continuent, le réfrigérateur, les électrodes, mes fameuses consommations des usages spécifiques. Donc je vais jouer sur trois tableaux. Le premier tableau, essayer de chasser le chauffage électrique. Quelquefois d'ailleurs, sans toucher à l'ensemble du bâtiment, remplacer des chauffages électriques par des chauffages électriques un peu plus performants,
oui.
ce qui existe aussi. Deuxièmement, rénover les bâtiments, mais ça prend un certain temps, mais on pourrait au moins le faire le plus rapidement possible pour les passoires énergétiques, mais bon, quelques années. Deuxièmement, faire ces fameux programmes sur les usages spécifiques de l'électricité, dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire le renouvellement des appareils et l'usage des appareils. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que pour une même qualité de vie ou qualité de consommation, etc., je peux écréter la pointe. Et à ce moment-là, j'ai une consommation d'électricité qui est beaucoup plus plate. Et c'est très intéressant parce que l'Allemagne, par exemple, consomme plus d'électricité que la France. C'est un pays plus nombreux d'abord, plus industrialisé, tout ce que vous voulez. Bon, elle consomme plus d'électricité, mais sa consommation annuelle est presque plate parce qu'elle a très peu de pointes. Et donc, en fait, la limitation de son parc correspond à une consommation beaucoup plus constante, alors qu'en France, il y a cette question de la pointe qui oblige à dire qu'il nous faut absolument toutes ces centrales nucléaires, alors qu'en fait, on pourrait réduire assez facilement, probablement de 10 à 12 ou 15 réacteurs, qui dans tout le reste de l'année ne servent qu'à l'exportation, ce qui ne présentent pas d'intérêt, comme je l'ai déjà dit, et qui ne vont être absolument indispensables, oh là là, oh là là, qu'à cette période de janvier-février.
Oui, puis surtout, dans mon souvenir, pour la pointe, pour répondre à la pointe de janvier et février, on va acheter énormément d'électricité à l'extérieur et de l'électricité très chère.
Pas forcément énormément, puisque justement, si tu veux, c'est... Ils font le plus possible pour que ça soit assuré par le système français. Mais même si on a tout sur le pont, on arrive quand même à certaines importations. Alors ces importations, ben, ça peut être un peu n'importe quoi. C'est-à-dire ça peut être des importations par des centrales au charbon ou au gaz en Allemagne, mais probablement de plus en plus des centrales à gaz, ou bien des énergies renouvelables.
C'est-à-dire, de l'hydraulique suisse.
Il peut y avoir, si tu veux, les importations, c'est assez variable, parce que par exemple, il y a certaines années, la plupart du temps, contrairement à ce qu'on dit, on entend depuis des années le fait que la France vend du nucléaire à l'Allemagne, et que comme ça, on sauve les Allemands. Bon, en fait, c'est l'inverse. C'est dans l'autre sens. La France, sauf peut-être cette dernière année, mais historiquement, depuis, moi j'avais regardé la question depuis 2000, au moins depuis 2010, même peut-être avant, on est importateur net d'Allemagne. Par contre, on exporte à l'Italie, on exporte à l'Espagne, on exporte au Royaume-Uni, et donc toutes ces liaisons permettent d'une certaine façon d'équilibrer les choses entre l'ensemble des pays occidentaux, puisque les réseaux sont interconnectés.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 et vous écoutez Le Nucléaire et son Monde.
Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. See that black boy over there running scared, his old man in a bottle. He done quit his 9 to 5, he drink full time, and now he's living in a bottle. See that black boy over there running scared, his old man got a problem, and it's a bad one. He ain't done pawned off damn near everything, his old woman waiting to bring for bottle. Come on, hit it a lick one time, stick.
ever come looking for me, you know where I'm bound to be, in the bottom. Turn around, look around on any corner. If you see some brother looking like a goner, it's gonna be me. Sing the song.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 et vous écoutez Le Nucléaire et son monde.
Je vais revenir sur cette question de maîtrise de la demande parce que je sais que tu as réfléchi à quelque part à modéliser cette idée de par rapport à un usage. On a plusieurs manières d'y répondre et qu'en fonction de la manière dont on y répond, on consomme plus ou moins d'énergie. Et j'aimerais que tu me partages cette idée-là parce que je pense que c'est comme ça qu'on comprend mieux. Qu'est-ce que c'est que la maîtrise de l'énergie, quoi ?
Alors, le mot maîtrise de l'énergie a été utilisé à partir de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie. C'était le mélange entre les économies d'énergie ou l'efficacité énergétique et les renouvelables. Enfin, pour moi, c'est resté les économies d'énergie ou l'efficacité énergétique, puisque c'est là-dessus que j'ai travaillé après toute ma carrière professionnelle. Les politiques de maîtrise de l'énergie, c'est très varié. Alors ça, c'est quand même très bien détaillé dans les travaux de l'association Négawatt. Enfin, c'est là où c'est eux qui ont pris le relais de ce que nous avions fait dans les années 70 et 80. C'est Négawatt qui a continué à creuser cette idée de la sobriété et l'efficacité énergétique. Alors sur le plan technique, on comprend l'isolation des logements, les appareils performants, le changement du mode de transport avec plus de transports collectifs, moins de transports individuels, plus de vélos, etc. Donc il y a une série de choses. Et on peut dire que le pays qui soit champion là, et qu'il faudrait vraiment étudier, il y a d'ailleurs un très bon article dans Global Chance sur cette question par Thierry de la Roche-Lambert, c'est le Danemark. Danemark qui a une conception de l'élaboration d'abord des politiques de l'énergie et ensuite qui a développé de façon très très forte à la fois la maîtrise de l'énergie sur la consommation et à la fois le développement des énergies renouvelables. La façon de mettre en œuvre, ben, ça peut être tous les programmes de rénovation énergétique des bâtiments. Et c'est tous les problèmes sur la mobilité, c'est-à-dire la transformation de plus en plus de transports collectifs, de moins en moins de voitures. Et puis toute la question justement des appareils. On ne peut pas considérer qu'on peut faire ça à coup de subvention, parce que ça représente des sommes considérables. Mm-hmm. Donc il faut trouver des choses astucieuses. Par exemple, on avait fait une époque de mon bureau d'études, dans les années 90, des accords avec les vendeurs d'appareils électroménagers, de façon la semaine du réfrigérateur performant, des manifestations à la fois de communication, de réduction des coûts, de popularisation générale, par exemple, du guide top 10, etc. Donc, il y a énormément de choses que devrait faire l'ADEME et qu'elle ne fait pas suffisamment pour inciter, d'une part, informer, deuxièmement, et troisièmement, trouver les mécanismes qui permettent, par exemple, à quelqu'un de se dire, ben, si je vais avoir tel type d'aide, mais il faut définir, pour acheter un réfrigérateur performant. Mais pour le moment, comme ça a toujours été refusé, et on ne peut pas dire qu'il y ait eu, en France en tout cas, des choses très précises et très détaillées sur les économies d'électricité.
Parce qu'une fois, je me souviens que tu m'avais parlé de l'exemple de la Californie sur les frigos, et où là, ça avait été quelque part plus radical, parce que c'était l'interdiction des frigos plus mauvais élèves.
Mais ça existe partout, et aussi en France.
D'accord.
Alors, mais donc on peut réduire, on peut avoir A, B, C, D, F, et puis dire à partir de quelle date on peut acheter plus que les A++++, mais ça c'est européen, c'est plus difficile, mais un pays à mon avis peut le faire à condition d'obtenir que les autres les choses européennes souvent c'est négocié, c'est-à-dire on peut le faire à condition qu'on permette à l'autre de cultiver des roses par exemple si c'est nécessaire. Il y a des histoires d'ailleurs là-dessus qui sont assez intéressantes, mais Donc il y a une partie très, très importante, c'est effectivement Olivier Sidler, qui est l'un des types les plus calés sur ces questions, qui est membre de Global Chance aussi et de Negawatt. Pour lui, la réglementation est l'outil le plus utile. C'est-à-dire de dire, bon, ben, on interdit tel niveau et tel niveau. Mais c'est un processus de négociation à la fois avec l'Europe, à la fois avec les producteurs, etc. Donc
on a vu ça, par exemple, sur les questions de voitures. Ça a été très, très compliqué.
L'autre chose, c'est l'obligation. En Californie, c'était l'obligation faite aux compagnies d'électricité de faire des programmes d'économie d'électricité. Ils demandaient de l'autorisation de faire une nouvelle centrale, parce que la consommation augmente, donc il faut une nouvelle centrale. Et le gouvernement de Californie, quel qu'il soit, Reagan, Schwarzenegger, les démocrates, il y a toujours eu une politique constante, initiée par Rosenfeld, qui était un physicien, le dernier élève de Fermi, et qui en fait a basculé de la physique nucléaire aux économies d'énergie, et qui a lancé cette politique qui est très bien expliquée dans certains papiers de Global Chance. Donc l'obligation de montrer que ils étaient obligés de construire une nouvelle centrale, alors qu'ils pouvaient faire des centrales négatives en finançant les économies d'électricité.
Okay.
Et c'était moins cher que la centrale. Et donc, ils devaient faire des politiques d'économie d'électricité. Et donc, il y a eu des programmes très importants d'économie d'électricité en Californie.
Et ça... mené par les producteurs.
Obliger les producteurs à... Et le gouvernement français pourrait très bien obliger EDF en lui disant, attendez, vous voulez construire des EPR2, eh bien... proposez-moi, à la place de la production d'un EPR2, un programme d'économie d'électricité, ce qui est très facile pour EDF. Pourquoi ? Parce que la difficulté de la politique d'achat, c'est la suivante. C'est-à-dire que, je prends l'exemple qu'on a appliqué en Tunisie du chauffe-eau solaire, pour lancer le chauffe-eau solaire. Chauffe-eau solaire, c'est assez cher, même en Tunisie, où il est moins cher qu'en France. C'est en France qu'il est le plus cher.
Bon. Donc ça, en fait, excuse-moi, ça, c'est une politique publique que tu as mis en place avec l'État de Tunisie.
Oui.
Quelle année ? Il y a longtemps.
Non, il y a 2005, peut-être, par là.
Ah enfin, bon, ok, d'accord.
Non, c'était...
Au 21e siècle, déjà.
Oui, au 21e siècle, j'étais consultant. C'est... D'ailleurs, voilà, le problème, c'est que si je fais des aides pour un chauffe-eau solaire, je vais faire un système dans lequel, mettons qu'un chauffe-eau solaire, mettons que ça soit 1000 euros, je vais demander à quelqu'un, à ceux qui achètent, de me payer 100 euros, et puis qui rembourse. Le prêt, on lui fait un prêt, il rembourse le prêt pour atteindre des économies réalisées. Donc ça peut durer 10 ans, par exemple. Dans un système normal, c'est très compliqué, parce que quelqu'un dit, bon, moi, je ne rembourse plus. Bon. Alors en fait, ils ont obligé la compagnie d'électricité à faire ce remboursement automatiquement sur la facture. Et en plus, ça réduit les coûts de transaction. Donc, le type... chaque fois sur sa facture d'électricité, se rajoute ce remboursement. Mais il est tenu par la facture. C'est-à-dire que si jamais il ne payait pas, on lui coupe l'électricité. Donc ça, il faut que ça soit fait par quelqu'un qui a une relation presque obligatoire avec le client. Évidemment, ça a été proposé à EDF, qui a toujours refusé.
Et je t'avoue que le mécanisme, là, je ne l'ai pas bien compris. C'est-à-dire, moi, je veux acheter un chauffe-eau solaire.
Voilà.
Et en fait, c'est dedans. On me le donne.
La compagnie d'électricité te donne un bon.
OK.
Te donne un bon, et donc tu vas acheter ton chauffe-eau solaire. Avec le bon.
Et donc, ça ne me coûte rien à ce moment-là.
Tu payes quand même 10%, par exemple. Bon, quand même. Bon. Et puis, tu pars avec ton chauffe-eau solaire, et la compagnie d'électricité te fait rembourser moins les 10%, sur un nombre d'années raisonnable, mettons 10 ans, bon, la durée, bon. J'envoie le bon, le premier bon, à tout le monde en disant, si vous voulez acheter un chauffe-eau solaire, voilà un bon. Alors le type, il dit, ben, moi, j'ai pas besoin de chauffe-eau solaire, mais celui qui va, il va le faire, et il paye. Et ça a été appliqué, et donc les chauffe-eau solaires se sont très bien développés en Tunisie, très bien. Et même, moi j'ai un copain qui d'ailleurs avait participé à mettre au point ce mécanisme, qui est fabricant de chauffe-eau solaire, de panneaux solaires, qui vend beaucoup moins cher que les panneaux solaires français. Il a eu le certificat européen, mais il n'a pas eu le certificat français. Donc il ne peut pas vendre ses chauffe-eau solaires en France. Et en France, le chauffe-eau solaire est très cher. Parce qu'il y a un seul fabricant qui du coup profite de l'aubaine, et puis voilà. Donc ce système de bons comme ça avec remboursement peut être généralisé. Donc ça c'est un truc très astucieux. Alors moi ce que j'ai comme idée, d'abord le gouvernement pourrait l'imposer à EDF, comme on l'a fait en Tunisie, en disant écoutez vous êtes bien gentil, mais vous allez faire un système pour... Le chauffe-eau solaire, enfin, on peut faire une liste, etc. Ça peut être fait aussi par une banque, parce qu'elle tient, elle aussi ses clients. Mm-hmm. Ça peut être fait par une entreprise par rapport à ses employés.
Ouais.
Ce qui permet de passer des accords avec les producteurs de produits, ou les vendeurs de produits. Alors, il y a des, écoutez, on va vous procurer des clients. Eh ben, les clients qui viendront au nom de, je sais pas moi, EDF, La Poste, etc., on peut négocier quand même un petit truc sur les prix, vous voyez. Donc c'est une démarche très intéressante.
Oui, mais tu as un changement d'échelle.
Et tu as un changement d'échelle considérable et qui ne coûte rien à personne, finalement.
Et qui rapporte au final à la nation, puisqu'en fait, on va baisser la consommation d'énergie finale.
Et qui voilà. est notre but.
Et voilà.
Alors, tu vois, c'est vrai que j'ai toujours quelque part une gêne quand je vois que la question de l'économie d'énergie est déléguée aux producteurs d'énergie, parce que j'ai l'impression de dire à Coca-Cola démerdez-vous pour que les gens boivent moins de Coca-Cola.
Eh ben oui, ben en Californie ils l'ont fait.
Ouais.
Et les mecs.
C'est un État communiste, comme on le sait.
Ben voilà, et les mecs ils ont obéi. Et moi j'ai vu pas mal de films, de vidéos de sociétés californiennes. C'est passionnant, tu vois, il explique au mec, voilà, hop, 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 enfin, ben, tout le système. Mais le système que moi j'ai fait sur l'histoire des bons, c'est pas con. Parce qu'en fait, c'est relativement simple, tu vois. Et le risque est très faible.
C'est vrai que sur cette question, tout à l'heure tu parlais de construire une centrale, et puis l'État californien dit, bah, construis plutôt la centrale négative, c'est-à-dire voilà. Baisse-moi la demande. C'est vrai que quand on regarde le coût de l'EPR à 19 milliards, on se dit qu'avec 19 milliards, on aurait pu isoler un paquet de logements et que ces logements-là n'auraient pas consommé toute l'énergie que produira l'EPR, peut-être. Enfin, il ne le produira peut-être jamais, mais ça, c'est un autre problème.
Ça a été proposé à EDF qui a refusé. Voilà.
Ah ben, eux, ils veulent vendre de l'énergie, de toute façon.
Oui, mais le gouvernement, qui est quand même 83% propriétaire d'EDF, pourrait leur dire, écoutez, les mecs, ça suffit. On va pas continuer comme des fous à construire des EPR qui nous coûtent un brin et qui peuvent ne pas marcher, l'expérience prouve, et que donc on va faire un programme massif d'économie d'électricité. Voilà. Et voilà comment on va le faire. Et après, c'est des leviers de façon de faire. Voilà.
Mais donc ça, aujourd'hui, par exemple, dans l'État français, dans l'administration française et dans les ministères français, personne ne s'occupe de la maîtrise de la demande.
En fait, non. Normalement, c'est l'ADEME, mais si, ce qui est passé, mais mal, parce que c'est mal fait, c'est la rénovation des bâtiments, quand même. C'est passé comme décision.
Ouais.
Mais sur les économies d'électricité, il n'y a rien. Et il n'y a jamais rien eu.
Il y a des campagnes de pub, des fois, mais...
Mais même,
à l'arrache, quoi.
Même EDF dit chaque fois...
L'énergie est rare, économisons-la. Ça, c'est obligatoire sur toutes les publicités. Ouais.
Donc EDF pourrait faire mon système de bons, et comme ça, l'économie arriverait contre leur gré, peut-être, mais on pourrait très bien les obliger. Mais je te dis, les discussions avec eux, ça n'a jamais marché. Et comme le gouvernement, en fait, ne veut pas économiser l'électricité, puisqu'il faut faire des EPR, donc... On ne peut pas faire les deux. Hein.
Il y a un moment, il faut choisir entre construire des EPR ou maîtriser la demande. Oui.
Voilà. De tous les points de vue, la réduction de la consommation, à condition de ne pas pénaliser les gens, c'est quand même la meilleure. Et tout le monde le dit, je veux dire, oui. Bon, mais ça ne se fait pas. Et même les écologistes, ils parlent beaucoup plus d'énergie renouvelable que de réduction de la consommation. Pourquoi ? Parce que les énergies renouvelables, c'est toujours pareil, ce sont des objets visibles. Les gens, ils se battront pendant des années pour faire, un champ éolien, mais le jour où ça marche, tu fais une grande fête. Bon. Si tu réduis la consommation des réfrigérateurs, ça ne s'inaugure pas, le ministre ne peut rien faire, et c'est ça. Ouais. Moi, je me souviens d'un ministre qu'on a eu, les secrétaires d'État qu'on a eu à l'énergie, pratiquement de tout temps, ils n'y connaissaient rien. Ils étaient là, nommés, parce que, bon... Et il y en avait un, Auroux, les lois Auroux qui ont été connues après dans le domaine du travail, etc. Lui, il se promenait, et il inaugurait une installation photovoltaïque, mais à l'époque, c'était des petites installations, tu vois, c'était dans les années, je ne sais plus combien, en Égypte. Et formidable, inauguration d'une petite centrale photovoltaïque minuscule par M. Auroux, donc il doit y avoir une stèle. Et je fais un système qui permet d'avoir des réfrigérateurs.
Il ne va pas inaugurer tous les réfrigérateurs à plus.
Et voilà. Et ça joue beaucoup, y compris chez les écologistes.
Bien sûr.
Quand même, l'objet, ça, tu vois, il y a un objet que je peux...
Alors moi, je me souviens, alors j'espère que ça existe encore, mais il y avait un concours qui s'appelait Famille à énergie positive, qui était un concours où les ménages s'inscrivaient, mesurait leur consommation le 1er janvier et on regardait qui, le 31 ou mars, enfin je ne sais plus combien de temps, avait réduit le mieux sa facture.
Oui, c'est très bien ces trucs-là, mais ce sont des actes militants.
Ok.
Et les actes militants, moi je comprends que les gens, ils ont beaucoup de choses à faire et que faire des actes militants pour vérifier ma consommation, etc., etc., il faut être un peu...
impliqué, quoi.
Oui, puis voilà, je vais mesurer,
volontaire,
on va réunir les familles, on va faire tout ça. Alors, cette expérience a montré que rien que par les gestes, c'est-à-dire la sobriété, rien que par les gestes, tu peux réduire de 15%.
Ce qui est énorme.
Ce qui est énorme. Mais moi, je dis, bon, ok, c'est bien, mais... faut vraiment le mec qui s'intéresse. Est-ce que mon machin, il met un compteur, un truc. Tandis que mon système de bon, c'est très simple. Je fais rien. J'ai un
de toute façon, il faut les deux. Il
faut les deux. On peut ne pas demander à ce que tout le monde soit un militant des économies
d'énergie. Ça, bien sûr. On est bien d'accord.
Il y en a qui préfèrent le foot, d'autres qui préfèrent le jardinage ou de monter des éoliennes ou des photovoltaïques, ce qui est très bien. Mais pour les économies d'énergie, comme elles ne sont ni spectaculaires, ni, comment dirais-je...
publicitaires, enfin,
Ou même, tu vois, je suis fier d'avoir monté une éolienne. Si je dis je suis fier d'avoir acheté un réfrigérateur à plus, tes copains ne trouvent pas que tu es un héros de l'humanité, quoi.
Non.
Alors, il faudrait arriver à ça, mais c'est un long chemin.
Ouais.
Par contre, des systèmes dans lesquels, assez passifs, c'est-à-dire tu reçois dans ta facture ou dans ton relevé de compte bancaire ou ton truc postal, enfin, tu reçois un bon disant, voilà, pour ces appareils-là, voilà ce qu'on peut faire. Tu te dis, bah, attends, on doit renouveler notre réfrigérateur. Bon, regardons ça, et voilà, quoi. Un acte qui devient relativement simple, et puis au bout d'un certain temps, tu peux dire à tes voisins, ben tiens, moi j'ai gagné tant, et ça peut se répandre sans que ça soit un acte militant. Ce sera un acte simplement, ben, j'ai gagné du fric parce que j'ai pu acheter dans de bonnes conditions un réfrigérateur à plus.
Je reviens au tout début de la conversation et on s'arrêtera là. Cette loi qui est contraignante sur la consommation d'énergie finale... De moins 20% en 2030 et moins 50 en 2050, qu'est-ce qui va se passer en 2030 si on n'a pas réussi à faire moins 20?
Ben rien.
C'est-à-dire que ça tient l'État, mais en fait, pas tant que ça, quoi.
C'est pour ça que moi j'avais insisté pour le fait qu'il y ait un truc assez proche, une étape, parce que 2050, c'est comme les histoires climatiques, on te dit on va faire zéro en 2050. Bon, moi je veux bien, et après on dit ah non, on va faire zéro en 2045, ou bien on va faire 30% en 2000, je sais pas combien. La bataille sur les objectifs. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu fais demain matin. Alors on a la loi qui nous dit ça, ça voudrait dire que chaque année, on doit réduire de temps. Ben, déjà, il y a des choses qui se passent intéressantes. C'est que, par exemple, sur la consommation d'électricité, c'était, moi j'ai regardé de près, c'est très intéressant. De 1974 à 2004, l'augmentation de consommation n'a pas été une exponentielle, comme on parle toujours d'exponentielle. Ça a été strictement une droite. Une droite très précise. C'est monté à peu près de 2 TWh par an, je crois. Mais okay. Des marches. Bon. 2004. Alors, évidemment, à ce moment-là, vous pouvez dire, vous voyez, comme avant, ils avaient dit que c'était une exponentielle, parce que dans les années 60, ça se rapprochait d'une exponentielle, en fait. Pas tout à fait, mais enfin.
Okay.
Donc, il y a le doublement tous les 10 ans. Fameux doublement tous les 10 ans. Qui a donné lieu au programme Mesmer.
Tu vois. Et oui.
En fait, c'est pas des exponentielles. Sur beaucoup de données, c'est des droites. Et là, sur l'électricité, ça se vérifie, mais à un point extraordinaire. C'est une droite, pile. Donc une marche chaque année d'à peu près, oui, je crois que c'est 2 TWh. Et en 2004, à partir de 2004, ben, c'est à peu près constant, voire un peu diminuant.
La consommation d'électricité.
D'électricité, eh ouais. Et donc...
Incroyable.
Donc, bon, les gens qui font la prospective et tout disent, ben oui, alors que les pro-nucléaires disent, en fait, l'électricité va continuer à augmenter parce qu'on va réindustrialiser la France, etc.
Donc on va faire la voiture électrique.
On va faire la voiture électrique, ah. Etc. En fait, c'est plutôt tendance constante, plus ou moins en baisse, parce que un certain nombre d'économies d'électricité se font quand même, chez les choses qui comptent, c'est-à-dire les industriels, les tertiaires, ils commencent à regarder que quand même, si je change, j'ai un copain qui avait une société qui a changé son informatique, et il m'a dit, ben, moi j'ai gagné un facteur 3 sur ma consommation.
En consommation ?
Ouais. Il a changé tout son machin.
Il a divisé par 3 sa consommation.
Ouais. Et tu as, et non, mais tu as des facteurs très importants. Si tu changes certains équipements, rien que d'éteindre, ça ils le disent, je crois, à la radio, d'éteindre la boîte la nuit. Bon, ben la plupart des gens ne le font pas.
Oui.
Et ben voilà, déjà, la nuit, et puis tu l'as...
Ah ben, si j'allume mon ordinateur à 11h et que je regarde les Wi-Fi dans ma tour, j'ai accès à une trentaine de Wi-Fi. Et je pense que beaucoup de gens dorment à cette heure-là quand même.
Et voilà, etc., etc. Tu as déjà, avec les gestes, on en parlait à propos des familles à énergie ouais. positive, avec les gestes, tu peux déjà avoir des gains importants. Le plus connu, qui a fini d'ailleurs par être plus ou moins appliqué, c'est éteigner la lumière quand vous quittez une pièce, quoi.
Oui.
Celui-là, comme, non, mais ce qui est dingue, c'est qu'on ait besoin de dire ça aux gens. Moi, je ne comprends pas.
Et petit à petit, ça a marché. Les gens se disent, oui, les enfants, maintenant, on leur dit d'éteindre la lumière. Ouais. Et ben, c'est considérable. Alors, ouais, maintenant, avec les LED, le gain, surtout dû au LED, est moins à éteignant la lumière.
Ouais, eh bien, merci Bernard pour ce temps. À la prochaine. On se retrouve le mois prochain pour Le Nucléaire et son Monde sur Radio Libertaire 89.4.
D'être nu sans abri,
quelqu'un qui n'a plus rien, mais qui a plein d'amis. Ferais-je des miracles? Saurais-je des secrets? Trouverais-je des trésors rien que pour les donner? Peut-être demain,
peut-être demain,
peut-être jamais,
peut-être jamais,
peut-être un beau jour, peut-être une nuit. Trouverais-je ce chemin qui est si bien caché, l'autre monde de ce monde-ci? Peut-être demain,
peut-être demain,
peut-être jamais,
peut-être jamais,
peut-être dans une autre vie. Peut-être demain,
peut-être demain,
peut-être jamais,
peut-être jamais,
peut-être dans une autre vie.
Avec des mots faciles et ton air difficile, avec tes mots d'amour qu'on ne comprend pas toujours, t'as l'air d'une chanson qu'on chante à la maison. Oh. Y a des jours où tu sais, tu n'es pas un succès, y a des jours où ton père n'est sûrement pas Prévert, mais t'as l'air d'une chanson qu'on chante entre garçons. Ça fait belle lurette que je t'ai dans la tête. T'es pas la Madelon, mais t'as l'air d'une chanson qu'a fait bien d'autres guerres dont j'étais l'adversaire. Et puis, malgré les crises, malgré même un exode, comme le temps des cerises, t'es revenu à la mode. T'as l'air d'une chanson fidèle à son violon. Ma femme, tu es faite de quoi? Quatre coups de crayon, deux, trois notes de joie et beaucoup de brouillon. Et tu racontes quoi? Une histoire qui me plaît. Si je ne suis pas toujours là dans tous les couplets, je reviens au refrain et j'appelle ça l'amour. Tu es faite de quoi? Tu es faite de moi. Toi, ma femme. La 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 la. Il y a des jours où tu sais, tu n'es pas un succès. Il y a des jours où ton père n'est sûrement pas Prévert, mais tu es la chanson qui ne doit pas finir. Je te joue longuement, je me trompe souvent, car depuis tant de temps que je t'apprends par cœur, j'ai encore peur de ne pas te retenir.